Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Voix. Je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, hors série, puisque je participe à un événement qui s'appelle le Podcaston. Le Podcaston qui se tient pour la deuxième année consécutive, c'est un événement qui réunit 400 podcasteuses et podcasteurs francophones. L'idée étant de mettre en avant un maximum d'associations et d'ONG à travers nos podcasts, à travers nos micros. J'ai choisi personnellement de mettre en avant l'association VRAC en interviewant l'un de ses cofondateurs et son délégué général actuel, Boris Tavernier. Alors vous verrez que c'est tellement intéressant d'échanger avec Boris que j'ai fait un deuxième épisode qui sortira la semaine prochaine. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il est vraiment dans le cœur du podcaston pour présenter l'association VRAC. Et l'épisode de la semaine prochaine sera vraiment centré sur le parcours de Boris, ses différentes vies professionnelles pour l'amener à son rôle d'aujourd'hui dans l'association VRAC. Dernière chose, je vous laisse dans les commentaires de l'épisode le lien pour aller sur le site de l'association VRAC et vous avez d'ailleurs la possibilité de réaliser un don à l'association directement sur le site internet. Bonne écoute de cet épisode. Bonjour Boris.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Nouvelle Voix et dans un cadre spécifique puisque c'est le cadre du podcaston qui est donc un événement dont j'ai parlé en introduction de ce podcast. Du coup, tu es là pour nous parler de VRAC qui est l'association que tu as co-fondée, si j'ai bien compris, c'est bien ça?
Oui, on ne fait pas grand-chose tout seul. Et à l'époque, j'étais bien accompagné de Cédric Van Stevendel, qui était directeur de Est Métropole Habitat, un bailleur social, et de Marc Curie, qui était responsable Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre.
Très bien, d'accord. Donc vous étiez trois à co-fonder.
Oui, et bizarrement avec des personnes plutôt issues du logement, mais en même temps, pour vivre, on a besoin d'un toit et besoin de se nourrir.
Besoin de se nourrir aussi, donc c'est plutôt l'angle que tu as pris, enfin que vous avez pris. Du coup, avec VRAC. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas VRAC, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer quel est l'objectif de cette association?
Alors déjà, VRAC, c'est vers un réseau d'achat en commun. Et ça s'est construit vraiment sur ce constat assez simple. Quand on habite en banlieue, dans les quartiers populaires, on n'a pas accès à une alimentation de qualité, soit pour des raisons d'offres sur son territoire, que des discounters, pas de producteurs sur les marchés. On ne peut pas parler de déserts alimentaires comme on les connaît en Amérique du Nord, mais il y a quand même des grosses zones blanches en France. Et aussi, ces habitants n'ont pas les moyens. Donc même s'il y avait des magasins bio aux Minguettes à Vénissieux ou au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, ça serait quand même compliqué pour les habitants de pouvoir acheter des produits là-bas. Donc c'était vraiment comment on fait pour pouvoir amener le monde paysan, l'agriculture biologique dans les quartiers populaires.
Et l'idée était, j'allais dire, claire au départ, mais est-ce que les moyens étaient clairs ou est-ce que c'était compliqué d'imaginer des solutions?
Moi, ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais sur les questions d'alimentation. J'avais notamment monté la première AMAP lyonnaise, donc je voyais déjà que le frein d'une alimentation non choisie, même si elle était de qualité, c'était compliqué, que d'avoir un panier hebdomadaire de blettes, ça avait quand même quelques limites. Oui. Donc je voulais déjà que les gens puissent choisir. Ça, c'était la base. D'accord. De choisir ce qu'ils allaient manger, de ne plus consommer par défaut, parce qu'aujourd'hui, on a quand même 10 millions de Français et Françaises, voire plus, qui ne choisissent pas leur alimentation. Ouais. Elle est clairement contrainte.
C'est-à-dire, excuse-moi juste pour bien comprendre ce point-là.
Aujourd'hui, quand tu es même au SMIC, tu vas orienter ta consommation vers le bas du rayon, vers le moins cher. Okay. Même si tu sais très bien qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut éviter des produits transformés, c'est facile à dire, mais quand on n'a pas les moyens, aujourd'hui, même des personnes au SMIC peuvent aller à l'aide alimentaire. On en est là en France en 2024.
Donc quand tu parles d'alimentation non choisie, c'est surtout la contrainte budgétaire.
Budgétaire ou spatiale. Vraiment, selon où vous habitez, que ce soit la ville ou la campagne, c'est pas si simple de pouvoir se nourrir correctement.
Oui, d'accord. Et par curiosité, est-ce que tu parlais des quartiers tout à l'heure, ou en tout cas sans parler des quartiers, de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité, est-ce qu'il y a ce souhait chez les personnes justement d'accéder à cette alimentation de qualité?
Oui, ça c'était les premiers préjugés que j'ai pu entendre dans les quartiers.
Désolé pour le préjugé, mais je préfère...
C'est quelque chose qui ressort très très régulièrement. Il y a vraiment cette image, les quartiers c'est la malbouffe, c'est les kebabs, c'est les tacos. Oui, ça existe, c'est la seule offre qu'il y a sur ces territoires-là. Quand on propose autre chose, il n'y a pas de souci. Et puis évidemment que toutes ces personnes ont la volonté de bien se nourrir. Aujourd'hui, il y a une étude de l'IDRI, qui est un think tank qui est lié à Sciences Po, qui montre que quelle que soit la catégorie sociale professionnelle, c'est le même pourcentage de personnes qui a la volonté de bien se nourrir, donc qu'on soit riche ou pauvre. Ouais. Et puis si les riches mangeaient bien, ça se saurait. Oui, donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail sur toute la population sur ces questions-là. Donc il y a beaucoup, et puis beaucoup de personnes dans les banlieues sont issues d'immigration et vivaient à la campagne, avaient des jardins, avaient des ruches, ils connaissent le rapport à la terre. Donc c'est pas vraiment leur volonté que de mal se nourrir. Et donc comme partout, il y a des dérives. Il faut aussi rien s'interdire. Hein, faut pas non plus être intégriste du bio, du bien manger. Le côté plaisir peut compter aussi. Manger quelque chose de bien gras peut aussi faire du bien. Mais en tout cas là-dessus, non, c'est vraiment cette envie.
Vraiment cette envie, cette volonté.
La difficulté, c'était de casser aussi les préjugés inverses portés par les habitants des quartiers, notamment le bio, c'est pas pour nous. Le bio, c'est pour les riches. Donc c'est ça qu'il fallait casser d'abord en priorité. Mmh. Ouais. Et ça, tu le fais. En dégustant, en fait, il n'y a pas bien le choix. Mais au-delà de ça, il fallait. La plus grande difficulté, c'était de pouvoir rencontrer les gens. Tu n'arrives pas dans un quartier populaire. Donc, au démarrage à Lyon, à La Duchère, ou au Mas du Taureau avant Envelin, et donc au Minguette à Vénissieux, en 2014, je n'arrivais pas avec cette posture-là. J'ai des produits bio, ça va être super, on va se régaler.
Vous allez voir, ça va être meilleur pour votre santé.
Déjà que je rencontre les associations, que je rencontre les structures. Et j'ai vraiment utilisé les travaux de Saul Alinsky, qui était un Américain qui portait vraiment cette question du community organizing. D'accord. Comment tu crées des collectifs sur un territoire pour monter des projets. Donc j'ai tapé à beaucoup de portes d'associations, de centres sociaux, de régies de quartier. J'allais à la mosquée, j'allais à l'église, j'allais au foyer protestant sur tous les territoires, rencontrer toutes les communautés, discuter avec eux, en leur disant simplement, et si on faisait nos courses ensemble, peut-être qu'on pourrait mieux manger, et peut-être que ça nous coûterait moins cher. Et après, une fois que tu as dit ça, que j'ai eu... En fait, c'était moi à l'étranger. Donc c'est à moi d'être accepté sur le territoire, sur le quartier, d'être adopté par les habitants. Donc il faut beaucoup d'interconnaissance, qu'ils aient confiance en moi. Et une fois que les petits collectifs étaient créés sur ces trois quartiers emblématiques de la métropole de Lyon, il fallait convaincre par le goût et convaincre par le prix. Donc c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui, hein, des dégustations, puis il y a des immeubles, on ramène les produits, on les fait goûter, on ne dit rien. Une fois que c'est validé en termes de goût, on parle de prix. Et le choix qu'on avait fait à l'époque, c'était de revendre tout au prix d'achat. Donc il n'y a aucune marge qui est effectuée. Donc tous les mois, les habitants vont commander parmi une centaine de références de produits. On peut retrouver des céréales, des légumineux, des légumes, des huiles, mais aussi des produits d'entretien et d'hygiène. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et donc ils vont choisir soit en ligne avec un logiciel qu'on a construit avec les habitants, soit lors de permanences physiques, parce qu'aujourd'hui il y a aussi encore beaucoup de monde qui est éloigné du numérique ou qui tout simplement veut voir quelqu'un, quoi. Donc et nous on va centraliser ces commandes là dans chaque ville où on est présent. On a un hangar de stockage et on va aller livrer ces groupements d'achat dans les quartiers, souvent dans un centre social qui est mis à disposition, qui est vraiment partenaire de VRAC. Les centres sociaux, c'est vraiment hyper important dans notre projet. C'est surtout des lieux qui sont dans les quartiers depuis toujours, qui sont identifiés par les habitants. Les gamins font du périscolaire, les parents viennent faire des ateliers, et donc nous on va créer ces épiceries éphémères le temps d'une journée. On va jouer à la marchande tous ensemble. Donc ça, c'est un peu l'idée de base,
le schéma.
Puis en amont, côté producteur, pour avoir des bons prix. Donc non, on n'est pas Carrefour, on va pas saigner les paysans.
Vous n'êtes pas saigné, d'accord, vous faites pas les acheteurs.
On va payer au juste prix sans négocier. Et on n'a aucun contrat aujourd'hui avec aucun fournisseur depuis 10 ans. Et même certains avec qui je travaille depuis très 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 longtemps. Ça fait même 20 ans avec certains paysans avec qui je bosse, on n'a jamais rien signé. Il y a vraiment une vraie confiance mutuelle, confiance. Un vrai partenariat.
On est loin de la grande distribution.
On est très loin. Et aujourd'hui, se pose aussi la question de l'huile d'olive, notamment, qui a quadruplé, je dirais, en 10 ans. Au début de VRAC, mon huile d'olive bio, extra vierge de Catalogne, elle était autour de 5 euros le litre. On est aujourd'hui dans un magasin bio, on les retrouve à plus de 20 euros.
Oui.
Donc voilà, et malgré ça, on ne va pas aller chercher forcément le moins cher à l'autre bout du monde. On va continuer de travailler avec nos paysans pour aussi les soutenir. Et c'est vraiment ça, VRAC, c'est ce lien entre le monde paysan et les mangeurs, et c'est ce soutien mutuel. Il y a de la précarité des deux côtés, donc on ne doit pas saigner l'un pour saigner permettre à l'autre de mieux se nourrir.
Oui.
Quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment la base.
Le fait qu'il n'y ait pas de marge aussi dans votre mode de fonctionnement.
Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. On a pu voir avec ces deux années d'inflation 2022-2023 que les files se sont allongées à l'aide alimentaire.
Ouais.
Les personnes qui achetaient des marques achètent maintenant des premiers prix, mais les gens qui achètent déjà des premiers prix vont à l'aide alimentaire.
Ouais.
Donc
les
files se sont allongées chez eux, et chez VRAC, on se rendait compte que nos adhérents n'avaient même plus les moyens d'acheter des produits bio, locaux, à prix coûtant.
Même à prix coûtant, d'accord.
Donc on a cherché de l'argent, comme on fait depuis 10 ans,
d'accord,
pour pouvoir baisser les prix. Donc là, on est plus fort que Leclerc. On a baissé de 10% les prix pour tous les habitants des quartiers.
D'accord.
Et on a même pu créer un tarif à moins 50% pour les plus précaires.
Ok, super.
Donc là, on commence à être pas mal, en tout cas, pour permettre vraiment au maximum de gens de mieux
d'accéder
se nourrir,
à une alimentation de qualité. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que la première chose qu'on se disait, c'est qu'il peut y avoir un préjugé en se disant « mais est-ce que ces personnes-là veulent aller vers une alimentation de qualité ?» Et ce que je comprends quand je suis ton association sur les réseaux, quand on en discute, c'est que vraiment, vous allez loin sur ce côté plaisir, justement, avec, par exemple, les concours de cuisine que vous organisez dans les quartiers. On va loin justement sur ce côté, c'est même pas qu'ils sont demandeurs en fait, c'est qu'ils sont acteurs dès le départ d'une cuisine de qualité.
Mais en fait, faut pas oublier que la précarité et la précarité alimentaire, ça génère beaucoup de solitude.
Mmh.
Quand on n'a pas d'argent, on n'invite personne à manger chez soi.
Mmh.
On refuse les invitations parce qu'on peut pas les rendre, on va pas au restaurant, donc on est vraiment dans, on se remplit le ventre quoi.
Mmh.
Quand on vit seul, qu'on soit retraité, famille monoparentale, on cuisine aussi moins. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, cuisiner des produits bruts coûte plus cher que de réchauffer un plat transformé au micro-ondes, si on prend en compte et le temps de travail et le coût de l'énergie. Donc c'est pas simple aujourd'hui de pouvoir se nourrir. Donc effectivement, cette question de plaisir, on l'oublie, en fait, elle n'existe plus. On se remplit le ventre comme on peut pour vivre, en fait, tout simplement. Et moi, je veux vraiment remettre ça, cette notion de plaisir, de partage, au centre de notre système alimentaire. Donc effectivement, ça peut être par des concours de cuisine, par des ateliers, mais on travaille pas forcément avec des nutritionnistes, on va pas travailler, on va éviter en tout cas la morale et l'injonction.
Ah oui, d'accord.
En fait, on part du constat que nos adhérents savent très bien cuisiner.
D'accord.
Donc quand on fait un atelier de cuisine, c'est eux qui vont proposer un plat et on va s'appuyer sur ce plat pour voir si effectivement est-ce qu'il est équilibré ou pas, est-ce qu'il coûtera cher ou pas, est-ce qu'il est bon aussi pour notre transition écologique.
Ouais.
Et sur les concours de cuisine, ça nous permet de faire un événement très festif sur un quartier, de mettre en valeur aussi les habitants et surtout les habitantes, tout en travaillant sur une consommation moins carnée. Nos concours de cuisine, c'est végétarien pour la plupart. C'est les règles, c'est comme ça.
Okay,
donc ça fait râler. On a des personnes qui disent « moi, j'ai jamais cuisiné végétarien de ma vie ». Et bien justement, c'est l'occasion.
C'est l'occasion.
Et à la fois, tu peux travailler sur un plat qui est bon, qui a du goût, qui va être meilleur pour ta santé, meilleur pour la planète et moins cher pour ton porte-monnaie.
Ouais.
Et tout ça dans une ambiance très, très festive. Et ça travaille aussi sur l'estime des personnes. Elles sont valorisées, elles sont mises en avant.
Ouais.
C'est des chefs étoilés qui vont goûter ce qui a été proposé. Donc c'est aussi montrer cette richesse culinaire des quartiers et de changer de regard du grand public sur les quartiers populaires aussi.
Ouais.
Regardez,
ouais.
C'est pas ce que vous croyez. Oui, ça existe ce que vous voyez sur M6.
Oui,
il peut y avoir du trafic, de l'insécurité, mais il n'y a clairement pas que ça.
Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de talents culinaires aussi.
Ah, bien sûr.
Et c'est intéressant de dire justement que, avant même que qu'on amène chez eux des produits de qualité avec toute l'action que vous faites pour qu'ils puissent accéder à cette alimentation à des prix qui soient raisonnables, il y a cette envie, il y a ce talent justement culinaire, et peut-être même avec des plats, alors moi j'avoue que j'ai pas la connaissance évidemment que tu as du terrain, mais peut-être avec des choses qu'on connaît pas nous justement, en termes de goût, en termes de recettes, en termes de saveurs.
Et c'est ça qui est hyper intéressant, je me souviens des premiers concours de cuisine, les chefs étaient persuadés de goûter que des couscous.
Ouais, d'accord.
ce qui est voilà, le plat préféré des Français.
Le plat préféré des Français.
Et je me souviens d'une anecdote à Strasbourg sur un concours de cuisine, un chef étoilé qui goûte un plat géorgien.
D'accord.
Et qui découvre des saveurs, des épices, des plantes qu'il ne connaissait pas du tout. Et ça, c'est génial. Quand t'es dans ton quartier, au fin fond du Neuf, à Strasbourg, et que tu arrives à bluffer un chef étoilé en lui faisant goûter ton plat traditionnel, c'est assez génial. Quoi. Ouais. Donc, on a aussi beaucoup à apprendre.
Oui. Ouais. Et puis, vraiment, cette posture dont tu parlais, justement, vous avez vraiment fait ce choix de ne pas arriver en disant voilà comment ça va se passer.
Mais
voilà,
ça marche pas. Ça marche pas. L'injonction, ouais. La morale, ouais, ne fonctionne pas. On est tous pareils. Ouais. Si c'est trop descendant, on se braque. Et moi, j'ai pu entendre parfois, et je fais pas le procès des nutritionnistes. Il y en a évidemment des milliers qui sont géniaux. Mais j'ai pu entendre arrêtez de donner des bonbons à vos enfants, donnez-leur des amandes. C'est meilleur, d'accord, pour la santé.
Moi j'adore les amandes, mais quand t'es enfant, c'est quand même, c'est un peu plus compliqué.
Pas vraiment le même goût, et puis c'est trois fois le prix.
En plus, ouais.
Aujourd'hui, des amandes dans la grande distribution, ça va être 25 euros le kilo. Quoi. Ouais. Donc c'est pas la bonne solution. Ouais. Et à l'inverse, j'ai pu entendre aussi une maman discuter avec un nutritionniste en culpabilisant beaucoup, en disant mon enfant ne mange que des gâteaux et des chips.
D'accord.
Et le nutritionniste lui répondre c'est pas grave, c'est bien. C'est le début de la diversité, de la diversification, pardon. Et donc c'est rigolo,
c'est
de se dire,
il
casse le stress que tu portes, et puis après on discute, et puis voilà, puis on améliore, et on chemine, mais c'est violent, enfin on est ce qu'on mange. Donc voilà, ça nous renvoie aussi toujours beaucoup de choses enfouies parfois au fin fond de soi.
Ah, je trouve que la réaction du nutritionniste est géniale parce que plutôt que de culpabiliser, justement, tout de suite, c'est de dire y a déjà quelque chose de positif, il y a deux aliments différents.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal du tout et c'est vraiment pas mal. Alors, on va recommencer par les chips et les gâteaux et après on voit ce qu'on va d'autre.
Après on s'ouvre.
Voilà, après on s'ouvre à d'autres choses. Et du coup, je dirais la vision à long terme d'une association comme VRAC, si je suis un peu provoque, on pourrait dire est-ce que VRAC devrait exister finalement ?
Dans l'absolu, non, parce qu'on est censé quand même, dans un pays comme le nôtre, pouvoir nourrir correctement notre population. On a aussi quand même une agriculture, on est un pays agricole, même si aujourd'hui il y a une urgence à renouveler le monde paysan. Donc ça ne devrait pas être nécessaire. Mais on est quand même aussi dans un pays où il y a des inégalités sociales qui se creusent de plus en plus. Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de personnes qui ne s'en sortent pas et qui n'arrivent pas à se nourrir correctement. Et en face de ça aussi, des enjeux de santé qui sont très très forts.
Ah oui.
Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. On a aussi ce monde paysan qui est en souffrance. Donc... oui, on ne devrait pas exister, mais là, je crois qu'au contraire, il y a besoin de beaucoup plus de projets comme les nôtres. Ouais. Et il y en a, il y a des jardins de Cocagne qui font aussi un gros boulot, il y a des épiceries sociales et solidaires, des nouveaux lieux dédiés à l'alimentation, des caisses alimentaires. Donc il y a des gens qui se bougent, il y a plein de projets sur les territoires. Mais aujourd'hui, il manque une grosse volonté politique de renverser la table et de changer ces politiques publiques en termes d'accès à l'alimentation.
Peut-être que ce n'est pas simple de répondre rapidement à cette question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, selon toi, justement, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent accéder à une alimentation de qualité ?
C'est effectivement une question qui est complexe, parce que ça touche à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne paye pas l'alimentation au vrai prix.
Oui.
Donc, il y a 9 milliards d'euros de l'Europe, de la PAC, qui sont orientés vers un type d'agriculture qui n'est pas forcément la meilleure agriculture pour le vivant, pour les mangeurs. Il y a la FAO qui a pu faire une étude dans plus de 150 pays qui explique que les coûts cachés de notre alimentation industrielle sont de 10 000 milliards de dollars par an.
Okay.
Donc, c'est énorme.
Les coûts cachés, ça peut être quoi ? C'est les coûts environnementaux, par exemple ?
Environnementaux, les coûts en matière de santé.
Ouais.
Donc, en gros, si je vous résume, aujourd'hui, si vous allez dans la grande distribution, acheter un produit transformé, en réalité, il coûte le double à la société.
Ouais.
C'est un peu ça, le ratio.
Oui.
Donc, déjà, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Y a un gros travail à faire sur la qualité, déjà, de ce qui est proposé. Le Nutri-Score va dans un bon sens aussi à ce niveau-là. Il reste toujours des blocages économiques, des blocages spatiaux aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus de paysans dans les quartiers populaires parce que la tomate de pleine saison coûtera toujours 4 fois plus cher que celle du Maroc. Donc, c'est difficile. Donc il faut subventionner une autre agriculture,
oui,
déjà.
Oui, oui.
Ça peut être la base. Mais il n'y a pas de formule magique. Il y a un projet qui est hyper intéressant sur la table qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et c'est vraiment le seul projet systémique qui permettrait à la fois aux paysans de bien vivre et aux mangeurs de mieux manger.
Oui.
C'est... pour moi, l'urgence, c'est de sanctuariser un budget alimentation. C'est toujours okay. là-dessus qu'on gratte.
Oui, c'est, oui.
Une fois qu'on a payé les loyers, les factures, si on doit aller au médecin, s'acheter des vêtements, c'est
là,
toujours sur l'alimentation.
Il n'y a que l'alimentation, donc, t'as le choix de choisir un autre produit.
Donc c'est vraiment là-dessus ouais. que tu arbitres. Et si on arrive à sanctuariser ce budget-là, donc la sécurité sociale de l'alimentation qui s'appuie sur trois piliers. Le premier qui est vraiment l'universalité, que ce soit pour tout le monde, de sortir des politiques pour les pauvres. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. On peut imaginer que... Si on fait le parallèle avec le monde de la santé, quand on va chez le médecin, quels que soient nos revenus, on est remboursé.
Oui.
Et ça pose pas de soucis, en fait. Quoi.
Au contraire,
il n'y a pas de manifestation de riches qui ne veulent pas être remboursés. Donc l'universalité est importante. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est cette idée de cotisation, que chacun puisse payer selon ses moyens.
D'accord.
Donc oui, les riches paieront plus que les pauvres. Ouais, ouais. Et c'est comme ça. Ça s'appelle la solidarité.
Ouais,
et c'est un mot qu'on devrait réhabiliter un peu plus encore dans notre pays. Et le troisième pilier, qui est le plus important, c'est vraiment cette notion de conventionnement de manière démocratique. Comment on l'a fait après-guerre pour les praticiens, pour les médicaments, on a choisi qui allait être remboursé.
Oui.
Là,
oui.
qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Donc là, on a estimé qu'il fallait 150 euros par personne pour se nourrir à peu près correctement, enfants compris. Hein, donc si vous êtes 4, c'est plutôt 600 euros par mois qui tomberont. Mais qu'est-ce qu'on fait cet argent? Vers quelle alimentation on se tourne? Et ça, c'est assez intéressant de se pouvoir créer des assemblées citoyennes qui vont choisir, décider de conventionner tel ou tel magasin, tel ou tel produit pour pouvoir mieux se nourrir. Donc on ne va pas interdire à la grande surface d'exister, mais c'est juste qu'avec tes 150 euros, c'est plutôt orienté vers une agriculture plus durable. Donc il y a ça qui existe, ça n'enlèvera pas, ça ne va pas régler tous les problèmes qui existent, qui est sur la table. On aimerait bien que ça existe.
Oui.
On porte ce sujet-là avec plein d'autres. C'est quelque chose qui évolue assez vite. Il y a une trentaine d'expérimentations sur le territoire et ça ne répondrait pas complètement à l'urgence. Il y aurait toujours besoin des Restos du Cœur, mais pour un public qui n'a vraiment aucun revenu, donc plutôt de primo-arrivants. Et ça changerait quand même beaucoup de choses. On serait plutôt sur 1 million de personnes à l'aide alimentaire plutôt que 4, 5, 6, et on ne sait même plus tellement les chiffres se bougent chaque mois.
Donc ça, c'est vraiment sur la table aujourd'hui. Est-ce que tu sais si ce projet-là existe dans d'autres pays sous des formes peut-être différentes?
En Belgique, ils portent aussi, ils sont aussi membres du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation.
D'accord.
Ils vont aussi expérimenter et ils expérimentent déjà sur Bruxelles.
Okay.
Mais au niveau européen, on n'a pas vu autre chose. Et même des projets comme VRAC, en fait, quand on a regardé ça il y a 10 ans, qu'est-ce qui existait dans les banlieues, dans d'autres pays, on n'a rien trouvé. Ni en France, ou alors vraiment des tout petits projets à l'échelle d'un quartier.
Ouais.
Je suis allé à Montréal l'année dernière, pour aller aussi visiter les centres alimentaires communautaires, tout ce qui pouvait se faire. On a vu des projets vraiment géniaux, mais qui n'allaient pas non plus aussi loin sur les questions de production, de qualité des produits. Donc c'est difficile quand t'es tout seul et que t'as pas de repères. Donc c'est
ça.
Toi que tu
balayes
tout. Tu fais comme tu peux. Mais donc voilà, et c'est toi qui grossis du coup pour pouvoir essayer de répondre aux besoins. Donc, aujourd'hui, on est VRAC, on est présent dans 106 quartiers populaires, dits QPV, quartiers politiques de la ville. Mais il y en a 1500.
Okay.
Donc évidemment que VRAC ne va jamais résoudre tous les problèmes et que même toutes les assos qui bossent sur ces sujets ne les résoudront pas non plus. Par contre, il est important d'avoir une taille critique, de peser au niveau national pour pouvoir être écouté par les politiques et les décideurs. C'était un peu l'objectif quand on a commencé à croître, je dirais à partir de 2017, quand VRAC a été lauréat de la Fondation La France S'engage, qui est vraiment une structure qui va repérer des projets avec une forte capacité d'essaimer. Effectivement, nous, on voyait bien qu'il y avait les mêmes besoins que tu sois dans les quartiers de Strasbourg, de Rennes, de Lille ou de Montpellier, et qu'on pouvait quand même dupliquer le projet projet en s'adaptant au territoire. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, de ne pas imaginer un copier-coller de ce que tu fais à Lyon.
Oui, tu peux faire la même chose.
Tu t'appuies sur les acteurs, tu t'appuies sur le territoire, sur ce qui s'y passe pour ne pas faire trop de bêtises. Et ça nous a permis, donc aujourd'hui, on est une vingtaine d'associations sur une vingtaine de villes, de pouvoir parler aux politiques. Depuis 2019, on s'est un petit peu institutionnalisé, mais ça nous permet d'être à la même table que les Restos du Cœur, que les banques alimentaires, le Secours Populaire, et de pouvoir apporter un autre discours. Aujourd'hui, on est habilité aide alimentaire, et on est les seuls à ne pas être liés à l'industrie. On est les seuls à ne pas vivre des dons, à ne pas vivre de la défiscalisation, et on est les seuls à ne pas proposer les poubelles, les grandes surfaces à nos adhérents. Aujourd'hui, l'aide alimentaire, malheureusement, c'est des dons, c'est des invendus. Les banques alimentaires ont déjà jeté une partie de ce que les grandes surfaces leur ont donné, alors qu'ils auront défiscalisé dessus. L'association caritative qui va aux banques alimentaires ne va pas pouvoir choisir ce qu'elle va vouloir. Elle-même va jeter une partie de ce qui est donné. Et le bénéficiaire, c'est un terme qu'on n'utilise pas trop chez Vrac, le mot bénéficiaire, c'est que tu es redevable de quelque chose. Il va récupérer un panier, il va baisser la tête, il va dire merci, et il va aussi jeter la moitié de ce qu'on lui a donné, parce que ça ne correspond pas à sa culture alimentaire, à ses goûts, à ses envies. Et on est aujourd'hui les seuls. Alors évidemment, on est tout petit, on va toucher 20 000 personnes aujourd'hui, entre 20 et 25 000 personnes, donc à peu près 100 fois moins que les Restos du Cœur. Mais on a montré aussi que quand on nous donnait les moyens, on pouvait se développer et répondre un peu plus aux besoins.
C'est-à-dire qu'avant que Vrac existe, il y avait déjà cette idée de se dire il faut que tout le monde accède à l'alimentation, quelque part. Et Vrac avait cette idée, tout le monde doit accéder à l'alimentation, mais pas n'importe laquelle.
Ah non, pas qualité. N'importe laquelle, ça c'est, on est bien d'accord.
Mais c'est le sujet de Vrac, quelque part. L'idée fondatrice de Vrac, est-ce que c'est pas ça, justement, de se dire, bien sûr, il faut aider toutes les personnes à pouvoir s'alimenter, mais avec cette idée de qualité qui n'était peut-être pas là avant.
Non, parce que dans l'aide alimentaire, on est juste là pour nourrir. Donc on ne se pose pas la question. On a des personnes qui sont en grande précarité, en grande fragilité, et tu ne te poses pas la question de la qualité. Ouais. Oh, s'il a faim, tu manges ce qu'on lui donne. Ouais. C'est vraiment ça. Avec aussi une petite charité chrétienne aussi, par-dessus, parfois. Chrétienne ou autre, on va pas... ne stigmatisons pas. Voilà. Mais... et ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. J'ai pu voir dans des structures caritatives, tu fais un goûter avec des bénéficiaires, tu vas acheter des gâteaux les plus mauvais, en fait. Mmh. Mais en fait, tu te poses même pas la question. C'est pas les trucs que t'achèterais pour toi. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pour des pauvres. Mmh. Quand il y a les ramasses de la banque alimentaire ou des Restos du Cœur dans les grandes surfaces, tu vois souvent les gens qui vont s'acheter leur petit riz de qualité, de marque ou leur pâte, et en fait ils vont acheter la marque fournisseur pour la banque alimentaire. Mais pourquoi tu ne donnes pas la même chose que ce que toi tu manges? Mais c'est pas grave, c'est pour des pauvres. Et nous on veut sortir de ça, en fait, un peu de dignité, un peu de respect.
Ce problème, il est ancien, ça me fait penser quand même une anecdote que j'aime bien. Ma grand-mère faisait partie d'une association qui s'appelait Terre d'Amitié, et en fait ils envoyaient des médicaments notamment en Afrique. Donc ils récupéraient les médicaments
périmés.
Alors justement, donc pas périmés, mais justement, tu vois, dès que en général quand tu achètes une plaquette, il te reste 4-5 médicaments, voilà. Donc hop, on les envoyait dans les pays, donc c'est de s'occuper de ça. Et justement, elle m'expliquait qu'une fois quelqu'un arrivait avec un gros carton de médicaments. Donc il regarde, il dit, mais tout est périmé. Il dit oui, mais c'est pour envoyer en Afrique, non? Voilà, donc ça lui paraissait tout à fait normal d'envoyer des médicaments, justement.
Et ça
m'avait marqué,
C'est la même logique sur l'alimentation. Ouais. Et c'est quoi l'image de toi quand tu as le droit de manger que des restes? Aujourd'hui, en France, les pauvres sont les méthaniseurs de notre société. C'est tout, en fait. Ouais. Ils consomment ce que nous, on n'a pas acheté, ce qu'on n'a pas voulu.
Ce qu'on ne voudrait pas acheter, ce qu'on ne voudrait pas consommer.
Et tout ça, avec des millions et des millions d'argent défiscalisé pour les grandes surfaces, qui elles-mêmes ont généré cette précarité. Aujourd'hui, il y a moins de dons, parce que les grandes surfaces veulent faire du fric jusqu'au bout. Donc jusqu'au dernier jour, jusqu'à la date limite, on va vendre à moins 50, moins 60%, et après on va donner. Donc il y a moins de dons. Il y a aussi cette logique d'inflation qui a été très forte, et on ne va pas se mentir, les grandes surfaces se sont quand même gavées, comme l'industrie agroalimentaire. Ouais. Et, Et ils ont poussé les pauvres vers l'aide alimentaire, ils ont poussé les plus petites bourses à aller se nourrir gratuitement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et c'est ça qui est fou. Et derrière, ils vont faire des dons d'argent en disant « Regardez, on sauve les restos. » Mais c'est totalement dingue et hypocrite et schizophrénique.
Donc, c'est éteindre l'incendie que tu as allumé un peu plus tôt.
Donc la loi Garot partait d'un bon sentiment de lier le gaspillage à l'aide alimentaire. Ça partait, voilà, il y a du gaspillage, il y a des gens qui ont faim. Ouais. Et voilà, ça a été, comme beaucoup de choses, perverti par l'industrie agroalimentaire. Ouais. Ouais, c'est plutôt ça le combat aujourd'hui. Comment les faire changer complètement, comment retravailler aussi nos outils de production. Et c'est pour ça qu'un projet comme VRAC, c'est vraiment s'attacher, on marche sur ces deux jambes-là, soutenir l'agriculture paysanne et biologique et la rendre accessible pour les gens qui ne peuvent pas. Quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres manières, je pense aux personnes qui nous écoutent, qui trouvent que ce sujet, justement, aussi leur parle, est quelque chose de fondamental, de très important. Est-ce qu'il y a d'autres manières, justement, d'agir pour ça? Je ne sais pas comment, mais...
Il y a plein de projets, il y a des centaines de projets sur tous les territoires qui vont dans ce sens-là, ou en tout cas qui essayent, que ce soit des groupements d'achat, des épiceries sociales, des magasins coopératifs, c'est aussi des choses qui poussent dans toutes les villes aujourd'hui. Des citoyens vont se rassembler pour créer leur propre magasin, sans patron, sans chaîne, sans dividende, sans actionnaire, et ça fonctionne. Donc soyez curieux, je vous parlais des caisses alimentaires et de la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a des projets qui poussent partout en France aussi, donc allez faire un tour sur le site du collectif, il se passe plein de choses. Et puis déjà pour ceux qui peuvent, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent, vous votez 3 fois par jour aussi, donc faites attention à ce que vous achetez, renseignez-vous, questionnez aussi votre paysan, de quelle manière il travaille, et ce sera déjà pas mal.
Ce sera déjà très bien. Ok, super.
Après, si vraiment vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours nous faire un don. Hein. On est preneurs. Il n'y a pas de souci sur le site de VRAC. Parce qu'évidemment, au niveau économique, c'est compliqué. Aujourd'hui, les associations doivent à la fois répondre à un besoin sociétal qui n'est pas satisfait. Oui. Et elles doivent générer de l'argent par elles-mêmes. Ce qui est complètement dingue. On ne sait pas du tout ce qu'on nous demandait il y a 20, 30 ans. Tu pouvais avoir des subventions. Aujourd'hui, les subventions sont devenues sales. Oui. Dans la Startup Nation...
On demande un modèle économique aux associations.
C'est la question qu'on te pose tout le temps. C'est quoi ton modèle économique avant qu'on parle projet. Donc, évidemment que... nous gagner de l'argent quand on vend au mieux au prix d'achat, c'est difficile. C'est quand même difficile. Donc on va chercher de l'argent privé, public, on se bagarre depuis 10 ans, mais les dons particuliers sont aussi les bienvenus.
Dans les commentaires de l'épisode, je mettrai de toute façon les liens vers le site de VRAC, la possibilité de faire des dons. Et puis le collectif dont tu parlais tout à l'heure...
Pour une sécurité sociale de l'alimentation, c'est un collectif qui est composé à la fois d'associations citoyennes, de syndicats, on peut retrouver la Confédération Paysanne, on retrouve des chercheurs, on retrouve Ingénieurs Sans Frontières, on retrouve le réseau Salariat, donc c'est vraiment pas mal de monde qui se regroupe toutes les semaines en visio et puis régulièrement... sur des week-ends pour travailler, pour continuer d'avancer sur ce sujet de sécurité sociale et alimentation. Et ça a aussi donné lieu à toutes ces expérimentations qui poussent sur les territoires.
Ok, très bien. Je mettrai aussi dans les commentaires de l'épisode, comme ça ceux qui nous écoutent pourront se rendre sur les différents sites et peut-être faire un don à VRAC.
Oui, ou même s'investir et se bagarrer sur son territoire. Aujourd'hui, à Lyon, dans quelques semaines, à Bordeaux hier, et à Montpellier l'année dernière, il y a ces projets de caisse qui touchent des centaines de personnes, qui se mettent en place. Donc, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Mais merci beaucoup, Boris, en tout cas, pour ta présentation de VRAC à l'occasion du podcaston. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
C'est terminé pour cet épisode spécial podcaston. Je vous rappelle que dans les commentaires de l'épisode, vous avez le lien vers le site de VRAC. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine avec Boris Tavernier pour une interview qui, là, sera plus consacrée à son parcours, à ses différentes vies professionnelles. Vous verrez beaucoup de choses très intéressantes. Pour me donner un coup de main pour développer le podcast Nouvelle Voix, vous pouvez le noter, le commenter. C'est possible sur des plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à la semaine prochaine.